me permets une petite incursion dans cet épisode pour vous parler de mon prochain Weekend Mastermind les 15 et 16 juin prochains. Mon Weekend Mastermind, c'est quoi? C'est un événement unique en petit comité où je travaille avec une vingtaine de personal trainers, de propriétaires de studios, de box sur la croissance de leur business et l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site andypoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
Je conçois que quand j'ai pas d'autre choix, entre guillemets, tu vas tout faire, mais il y a des gens, entre guillemets, ils veulent le faire, mais ils sont, tu vois, paralysés, tétanisés. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces personnes-là?
Ouais. Moi, en fait, je pense que c'est important de savoir où tu vas et c'est quoi ta vision à 5 ans, en fait, tu vois. Mm-hmm. Moi, je sais que ma vision à 5 ans, c'était, oui, aider des gens, donc développement personnel, mais c'est surtout, je voulais aussi être libre, aussi bien financièrement que géographiquement et temporellement. Donc ouais. Là, j'étais dans le dilemme de, OK, je vais lâcher un emploi qui me rapporte à peu près 10 000 euros par mois. Pour autant, je n'ai pas de temps. Et le coaching en ligne, c'est ce qui va pouvoir me permettre de gagner autant, voire plus, en ayant beaucoup plus de temps. Donc, j'avais conscience que oui, il y a 6 mois, 1 an, peut-être 1 an et demi de sacrifice, mais qui allait me rapprocher de ma vision parce que, on en revient à ça, je croyais suffisamment en moi pour me dire « tu vas y arriver ». Donc, okay. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de confiance en soi et est-ce que la personne, elle croit en soi ? C'est de se dire… si au fond elle croit qu'elle va pas y arriver, c'est compliqué, c'est normal qu'elle soit tétanisée par la peur. La personne qui croit en elle, elle a exactement la même peur qui est en elle, c'est juste qu'elle va l'interpréter différemment en disant c'est ok d'avoir peur, tu lâches un emploi qui te ramène énormément d'argent, pour autant tu sais où tu vas, tu te sens suffisamment compétente d'y aller, tu crois en toi, allez go, on se tient par la main et on y va. Tu vois, je pense que c'est plus ce truc de croire en soi et d'arriver à prendre des risques si là où tu veux aller, c'est suffisamment sexy et attirant pour toi en fait.
Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Eway, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box crossfit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Maxime Broudiscou, CEO de Body Mental, une entreprise de coaching online. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Max. Comment se faire recruter dans les clubs de fitness? Les stratégies pour trouver des clients quand on est dans un club? Les doutes liés au lancement de son activité de coach sportif? Comment faire la transition pour passer d'un business physique à un business online? Comment redémarrer de zéro? Comment créer une offre irrésistible que vos clients vont s'arracher? Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Maxime.
Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'être avec Maxime. Salut Max.
Salut Andy, merci à toi pour ton invitation.
De même. Moi, je suis tombé sur toi. Alors, je crois que c'était peut-être via Alex Kiefer ou bref, je suis tombé sur, sur ton contenu et j'ai trouvé ce que tu faisais était vraiment intéressant. Donc, je me dis que tu serais une bonne personne du coup pour partager un petit peu ton expérience. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer en quelques mots qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui?
Ouais, bien sûr. Je m'appelle Maxime Broudiscou. Du coup, j'ai fondé Body Mental. Donc, aujourd'hui, c'est une entreprise de coaching en ligne qui accompagne des femmes à perdre du poids, mais on les accompagne plus sur la partie émotionnelle, développement personnel. Voilà, donc pour raconter rapidement mon histoire, bon, moi j'ai eu un passé où je me suis tourné vers le développement personnel parce que j'en ai eu besoin à un certain moment. Ensuite, j'ai toujours eu la chance d'avoir le sport qui m'a gardé la tête un peu au-dessus de l'eau, tu vois. Du coup, j'ai passé mon diplôme de coach sportif, il me semble, c'était en 2016. Donc, j'ai mon diplôme de coach sportif. Je vais travailler en salle de sport, en CDI. Ensuite, je vais travailler dans un basic fit. Donc là, je commence à bien gagner ma vie. Mais je commence à m'intéresser aussi au business en ligne. Je me sens pas forcément épanoui parce que j'ai envie d'introduire le développement personnel dans l'accompagnement de mes clients. Et 2019, je commence à me lancer en ligne. Et voilà, et là, ces trois dernières années, on a créé donc du coup Body Mental. Et aujourd'hui, donc j'ai une équipe, il y a des commerciaux, des coachs. Voilà, on essaie de scaler le business et de grandir petit à petit.
Ok. Et le Max tout petit, c'était qui? Et qu'est-ce qu'il voulait faire?
Le Max tout petit voulait être footballeur professionnel.
Ok.
Le Max tout petit voulait être footballeur professionnel. C'est pour ça que j'ai toujours eu la chance d'avoir été plus ou moins bon dans le sport et d'être passionné de sport. Mais à la base, il voulait devenir footballeur pro. Et ensuite…
Mais comment ça s'est passé du coup? Alors, tu as franchi les étapes ou comment ça s'est…
Après, c'était plus un rêve de gamin, tu vois, dans le sens où j'étais pas trop mauvais, mais pas de là à devenir professionnel, mais j'avais quand même ce rêve-là. Je suis parti en sport-études. D'ailleurs, j'étais en sport-études avec Aymeric Laporte, le défenseur de Manchester City. Et du coup, j'étais en sport-études. Et ensuite, je suis allé au lycée et c'est là où j'ai commencé… J'ai eu un événement dans ma vie qui a fait que j'ai commencé à me dévier un petit peu du chemin classique, on va dire, tu vois. Ce qui m'a fait tester beaucoup d'expériences, goûter un petit peu à une certaine liberté où je me suis un peu brûlé les doigts. Mais du coup, voilà, j'ai eu cette chance d'avoir le sport qui me tenait. Donc du coup, à ce moment-là, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Je ne savais vraiment pas quoi faire, je ne misais pas une pièce sur moi. Et j'ai eu la chance d'avoir un club de rugby qui m'a payé du coup le diplôme de coach sportif. Et là, je me suis dit, bon, ben, ça faisait sens pour moi que la seule chose que je pouvais faire, c'était dans le sport ou dans le bien-être parce qu'il n'y a que ça qui m'intéressait. Voilà quoi.
Et comment ce club de rugby en vient à te financer la formation? C'était un deal pour que tu t'occupes de la prépa ou comment ça s'est passé?
Non, pas du tout. C'était en fait, pour être totalement honnête, le club m'a recruté parce qu'il voulait absolument recruter mon grand frère qui est très bon au rugby. Donc, il est très bon au rugby. Et du coup, je lui ai dit, essaie de m'amener avec toi et de négocier qu'il me paye le diplôme de coach sportif. Du coup, on a eu le président, tout ça. C'était à Marmande, je me rappelle. Et du coup, on est tombé d'accord. Et donc, du coup, c'est le club qui m'a entièrement financé tout ça. Mais sans l'aide de mon frère, je ne pense pas qu'il l'aurait fait, pour être totalement honnête.
Ok. Et cette expérience-là que tu nous as dit, où tu as dévié, quels sont les enseignements qui te servent aujourd'hui, du coup?
Les enseignements que j'ai tirés de cette période. Les enseignements que j'ai tirés de cette période, c'est ce qui m'amène à avoir créé la mission Body Mental et ce qui m'anime moi, c'est que ta vie reflète ton niveau de confiance en toi et ton niveau d'estime de toi-même. Tu vois, ça, je l'ai bien vu parce que avant mon adolescence, je veux dire, tout allait bien dans ma vie, tu vois, j'avais pas de blessure émotionnelle, tout était cool, genre je faisais du sport, enfin tout allait bien. Et le jour où j'ai vécu une blessure émotionnelle, où vraiment j'ai commencé à me sentir moins bien à l'intérieur de moi, ben là ça a commencé à être la débandade en termes d'hygiène de vie, en termes de relations, et en fait toute ma vie a commencé à refléter ce que je pensais mériter, ce que je pensais au fond de moi. Et c'est ce qui m'a amené sur le développement perso. Donc, du coup, j'ai quand même de la gratitude sur cette période-là parce que j'ai énormément appris. C'est ce qui m'a amené sur le développement personnel, sur le développer ma propre personne et ensuite cette envie d'aider les autres parce que je sais ce que ça fait de pas se sentir bien, de pas avoir confiance en soi. Je le connais par cœur. Donc, j'ai vraiment tiré ça, en fait, de cette période-là. Et derrière, c'est ce qui m'a amené justement à enseigner ça, que notre vie reflète ce qu'on pense au plus profond de soi-même, en fait. C'est ça
Ouais, et Et comment tu as fait du coup pour t'en sortir? Ça a été quoi? Ça a été un déclic, une lecture, une rencontre? Parce que souvent, et depuis que je rencontre des entrepreneurs ou des personnes, tu vois, il y a deux chemins. C'est soit effectivement, tu arrives à t'en sortir et tu arrives à te créer, on va dire, une vie idéale, ou au contraire, malheureusement, tu sombres un petit peu dans les néants. Est-ce que toi, tu as eu un déclic particulier par rapport à ça, ou est-ce que c'est le fait d'avoir fait ces études de coaching ou autre? Est-ce que tu te souviens?
Ouais, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses.
Ouais.
Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que je pense que j'ai quand même eu et reçu beaucoup d'amour de ma famille quand j'étais tout petit.
Okay.
Donc, je ne sais pas si vous connaissez Boris Cyrulnik qui parle des facteurs de résilience. Ben, je pense que c'en est un. Ça veut dire que même dans ma période de down, vu que j'avais quand même de bonnes fondations quand j'étais enfant, il y avait toujours cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « c'est temporaire, ça ira mieux ».
Ouais,
okay. Chose que si quelqu'un qui n'a pas des bonnes fondations, peut-être ne se dira pas, tu vois.
Ouais.
Donc, j'avais déjà cette fondation-là.
Si tu n'as pas connu à un moment donné des périodes où dans la vie, c'est cool, c'est difficile de te raccrocher du coup et de se dire peut-être que la vie est cool, tu vois.
Exactement. Okay. C'est exactement ça. Je suis entièrement d'accord. C'est exactement ça. Et donc, du coup, j'avais toujours ce petit truc-là. Et en fait, c'est quand j'ai commencé du coup à passer mon diplôme de coach sportif, je me suis confronté à devoir donner des cours, etc. Donc, pour moi, c'était très compliqué de me mettre devant des personnes. J'étais très timide, très introverti. Enfin, j'étais devenu timide et introverti. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur « bon, mais c'est pas normal, il faudrait vraiment que j'ai plus confiance en moi. Pourquoi ?» Donc, j'ai commencé à faire comme tout le monde, je pense, qui s'intéresse au développement personnel, taper sur YouTube « comment avoir confiance en soi »,« comment ne plus être timide ». Et j'ai commencé à tomber sur Tony Robbins, David Laroche. Et j'ai commencé à regarder des vidéos. Ça m'a passionné, ça m'a fasciné. Et de là, j'ai commencé à vraiment développer une passion sur la psychologie humaine, comment on fonctionne, d'expliquer le pourquoi du comment. Et du coup, j'ai commencé à être piqué là-dessus, quoi.
Excellent. Et ton cursus au niveau du coaching sportif, c'était quoi? C'était via le CREPS ou c'était via une école privée?
C'était privé, c'était un BPJEPS.
Ouais, ok.
Un centre de formation privé, ouais.
Et comment s'est passé cette année? Est-ce que toi, tu as apprécié, tu as appris des choses, ça t'a servi? Quel est ton retour d'expérience? Parce que même chose, j'aime bien poser cette question aux professionnels, ouais. Et j'ai un peu les deux discours, donc j'aimerais avoir ton avis là-dessus.
Ouais, moi, pour être totalement honnête, là, j'étais dans ma phase de transition où j'étais quand même encore en train de faire beaucoup la fête, etc. Donc, pour être totalement honnête, je crois que j'ai loupé plus de la moitié des journées de formation, tu vois.
Ok.
Pour autant, j'ai eu mon diplôme. Pour autant, honnêtement, alors après, oui, j'avais loupé pas mal, mais honnêtement, à la fin du BPJEPS, quand j'ai mon diplôme, je ne me sens pas forcément plus compétent qu'avant d'avoir pratiqué moi-même, d'avoir vu sur YouTube, tu vois, des vidéos, etc., ouais. En prenant le bon du mauvais. Pour moi, je me suis dit, c'est cool, au moins là, je peux exercer en tant que coach sportif. Pour autant, je ne sais pas attirer des clients, je ne sais pas quoi faire. En gros, on m'a formé pour coacher en salle, mais pas à devenir un entrepreneur, à développer ma clientèle. Donc, moi, le retour que j'ai, c'est cool pour apprendre les bases. Tu vois, les os, les muscles, les postures, les exercices, les protocoles d'entraînement et encore. Ouais. Mais ensuite, pour te développer, tu as tout intérêt à te former et de comprendre que quand tu as ton BPJEPS, c'est que le début, c'est pas la fin. C'est que le début et c'est là qu'il faut commencer à se former pour se développer.
Ok. Et du coup, tu te souviens, ton BPJEPS en poche, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais les premières semaines, ou comment tu t'organises?
Comment je m'organise? Pour moi, c'était une année quand même éprouvante, dans le sens où moi, ça faisait des années où je foutais pas grand-chose de ma vie et tout. Donc, je me suis dit, vu que c'était en mai ou juin, je me prends l'été. Tu vois, je me prends l'été pour vraiment me poser et tout. Et
donc ça, c'est en 2016, c'est ça?
Enfin, il me semble, ouais.
Okay.
Ouais, c'est ça, c'est 2016. Donc ça, c'est en 2016. Et pendant l'été 2016, je refais une connerie de plus où là, je me dis, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je me dis, il faut vraiment que je change d'environnement. Donc du coup, je suis parti de Bordeaux. Okay. Je suis parti de Bordeaux. Je me suis dit, vas-y, là, je vais vraiment me consacrer au développement personnel, au développement de ma propre personne, me construire un avenir. Donc j'ai vraiment brûlé les bateaux, entre guillemets. Ça veut dire, je ne me suis pas laissé le choix. Je suis parti. Et c'est à ce moment-là où après j'ai trouvé un emploi à Toulouse dans une salle de sport en CDI et voilà.
Donc tu pars sans rien, en connaissant personne, tu pars à Toulouse et tu fais quoi ? Tu postules dans les différents clubs ?
Ouais, en fait, si tu veux, je pars en Corse. Au début, je pars en Corse parce que j'entame une formation de coach en développement personnel à distance.
D'accord.
Donc je me dis, il faut que je change d'environnement. Je vais en Corse et je passe.
C'est pas mal.
Ouais, tu vois. Et je connais personne, donc je connais vraiment personne et je suis vraiment. En fait, je suis vraiment dans l'optique de c'est bon, genre toutes ces années-là, j'ai fait de la merde, je vais me ressaisir, je vais réussir, je vais me former, je vais arriver à être heureux, je vais arriver à avoir confiance en moi, etc. Je vais gagner de l'argent, enfin, tu vois, vraiment, ouais. Je reprends tout ça. Et en fait, sur un exercice de Tony Robbins, je définis ma vision, etc. Et là, ça me paraît comme une évidence que la première année, il faut que j'aille dans une salle de sport où il y a beaucoup de monde pour faire des cours collectifs, pour développer ma confiance en moi, d'arrêter d'être timide, etc. Et du coup, là, je commence à postuler dans des grandes salles. Donc j'envoie des CV et tout. Deux jours après, le mec m'appelle, me dit on a absolument besoin d'un coach. Je lui dis ouais, mais moi il faut que tu me fasses une promesse d'embauche parce que je peux pas faire Bastia Toulouse comme ça juste pour un entretien. Il m'a dit bah écoute, je te fais une promesse d'embauche. Et du coup, trois jours après, je pris l'avion, je suis allé à Toulouse et là j'ai commencé en tant que coach sportif dans une salle de sport.
Et comment le mec il a eu confiance en toi ?
Bah en fait, il m'a dit j'ai jamais vu parce qu'en fait. Je lui ai envoyé un CV comme je pense personne n'a envoyé dans le sens où c'était sur des fiches glacées, tu sais, c'est avec du papier de bonne qualité dans des grandes enveloppes. Et je lui ai fait une espèce de lettre de motivation où je lui ai parlé avec mon cœur. En fait, je lui ai dit, écoutez, moi, mon objectif à terme, c'est de devenir coach en développement personnel, de faire des conférences, séminaires. Je suis ultra investi, je bosserai. Enfin, tu vois, je lui ai fait un truc. Je pense que chaque patron.
Et ça, t'avais envoyé cette lettre à plusieurs. Ouais, ok. Ouais. Avec la même qualité, ok.
Exact.
Et tu as eu d'autres retours suite à ça, je suppose, parce que c'est vrai.
Ouais,
que...
j'ai eu d'autres retours plus par mail, tu vois, où ils étaient intéressés. Oui. Mais lui, dès qu'il m'a fait l'offre, en plus, c'était à l'époque, moi, il me proposait, je crois, c'était 1600 euros par mois. À l'époque, pour moi, c'était très bien. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait allez, go, on y va, quoi.
Ok. Donc, te voilà rendu à Toulouse. Et comment se passent tes premières semaines à Toulouse?
Là, à ce moment-là, je suis vraiment obsédé par mon développement personnel. Donc, j'ai une routine très disciplinée dans le sens où je vais faire des routines matinales d'une heure, deux heures où, tu vois, je vais faire des exercices de développement personnel, de la méditation, etc. Donc, quand j'arrive au boulot, je suis frais, je sais quoi faire, je me challenge, tu vois, parce que pour moi, c'était très compliqué socialement. Okay. Je me challenge de tous les matins, aller dire bonjour à toute la salle, tu vois, aller faire mes cours collectifs, me donner de l'énergie. Donc, en fait, je vois ce métier-là comme une transition, quelque chose qui va m'aider à me développer personnellement, tu vois, pas comme une finalité en soi, je le savais. Donc, ça se passe très bien. Je commence à rencontrer du monde. Ça se passe très bien. Et c'est là où vraiment je commence à passer un cap socialement. Je commence à retrouver confiance en moi. C'est le début, ouais. Je pense que c'est le début de quelque chose de plus beau, en tout cas, de ce qui s'était passé ces 6 dernières années, quoi. Tu vois.
OK. Et il t'a fallu combien de temps pour justement reprendre confiance et puis te sentir bien au club?
Je dirais ça, ouais, je sais pas, peut-être un mois seulement, tu vois, un mois, ouais. Et ça allait déjà mieux, tu vois.
Ok. Et toi, du coup, ta fonction dans le club, c'était tout ce qui était plateau, cardio, muscu, cours collectif. T'as commencé justement le coaching en individuel. Comment ça s'est passé?
Ouais, j'ai commencé le coaching en individuel parce que j'ai vu que je connectais pas avec pas mal de personnes. Mm-hmm. Et je vendais mes séances à 20 euros. 20 euros de
l'heure. Okay.
Et j'étais content.
Là, à l'heure de jour, quand tu as démarré, c'est quoi? C'était t'es auto-entrepreneur sur cette partie-là ou c'est directement relié au.
Non, j'étais auto-entrepreneur. Ouais. J'avais déclaré du coup en tant qu'auto-entrepreneur. Et entre midi et deux, parce que je me rappelle, j'avais des pauses de 3-4 heures parce que je travaillais matin et soir. Et je restais au club, je faisais 2-3 coachings pour me faire un peu plus d'argent de poche, quoi, tu vois. Voilà. 20 euros de l'heure.
Ok.
Sacré prix.
Et cette première expérience dans le coaching, du coup, tu as accroché, comment tu t'es senti par rapport à ça?
Ouais, c'était beaucoup plus. J'aimais la proximité avec la personne, tu vois, de lui définir aussi ses objectifs à elle. Puis je me donnais, en fait, je donnais 20 euros de l'heure, mais moi, j'avais vraiment envie d'aider la personne. Donc, je lui faisais un plan alimentaire, je la suivais, je lui envoyais des messages même en dehors des séances. Tu vois, j'étais vraiment investi à fond. Et ouais, j'ai kiffé cette expérience-là parce que ça changeait du cours collectif où, le cours collectif, t'as un animateur, en fait, tu vois, t'as un clown. Mm-hmm. Et là, c'était vraiment l'idée de pouvoir accompagner une personne, définir ses objectifs avec elle, pouvoir la motiver, etc. Donc, ouais, c'est ici que j'ai commencé à prendre goût au personal training.
Et tu commences à parler de routine matinale, de choses comme ça, de développement personnel ou pas encore?
Je commence à leur en parler, mais je suis très… je n'ai pas confiance en moi sur le sujet. Ça veut dire que je l'applique pour moi. Mais je ne suis pas prêt encore à l'enseigner, etc. Donc, j'en parle rapidement, mais je ne vais pas coacher, en fait, tu vois.
OK. Et ces premiers clients, tu les trouves comment? Tu as dit que ta routine, c'était d'aller dire bonjour. C'est une bonne stratégie. Pour moi, c'est une stratégie assez simple. Mais du coup, ça te permet de connecter avec les gens. Et puis, naturellement, en discutant avec les gens, il y a des gens qui veulent « Ah, tiens, t'es coach, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?» Et puis, tu récupères des clients comme ça. Quelle était ta stratégie par rapport à ça? Est-ce que tu avais des stratégies particulières que tu as mis en place, toi?
Ouais. Mais en fait, comme je t'ai dit, moi, mon objectif, c'était vraiment de me servir de ce boulot pour grandir personnellement. Donc, ça a été plus l'inverse. Et je pense que c'est les coachs sportifs font l'inverse. C'est que ils se demandent, allez, je veux faire je veux signer des clients. Qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je pense que le mieux, c'est déjà de va te faire connaître, en fait. Tu vois, moi, vu que mon objectif principal, c'était de connecter avec les gens, ben, au bout d'un mois ou deux mois, moi, c'est même des fois quand j'avais un peu moins d'énergie ou quoi, c'est les gens qui venaient à l'accueil me dire bonjour, taper la discute, parce que c'était devenu une routine et j'avais connecté avec toute la salle. Donc, au fur et à mesure, il y en a qui m'ont dit, Max, ils me demandaient des conseils, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à dire, si tu veux, je peux te faire un coaching, voilà, je te prends que 20 euros de l'heure. Et petit à petit, en fait, ça s'est fait naturellement parce que je connectais avec les gens, tu vois.
OK, excellent. Et donc, comment se passe ta première année? Est-ce que tu restes déjà une année dans ce club-là ou comment ça se passe pour la suite?
Ouais, je vais rester 16 mois.
Ouais, OK.
Je vais rester 16 mois. Ensuite, je commence à avoir fait le tour de tout, quoi, tu vois. Donc, 16 mois incroyables. Hein, ça a été vraiment un tremplin pour moi. C'était vraiment cool. Après, j'ai senti que je commençais à m'essouffler. Donc, j'ai posé ma démission. Donc, c'était fin 2017, je crois. Fin 2017. Okay. J'ai une période de latence, je me mets au chômage et là, je commence à tourner des vidéos pour me former sur le développement personnel, enfin, m'entraîner à faire des vidéos.
OK. Voilà.
Donc, c'est un paradoxe, mais avant de publier ma toute première vidéo, j'en avais tourné 1000 auparavant.
Wow, OK.
Parce que j'avais pris conscience de ce truc-là, de développer ses compétences. J'avais tourné une vidéo, je m'étais dit, elle est nulle à chier. Je me suis dit, OK, en fait, je vais en faire tellement que je vais oublier la caméra et je serai tellement à l'aise que ça va le faire. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plutôt à l'aise en caméra. Bref. Okay. Et du coup, voilà. Et ensuite, l'été 2018, là, pareil, je renvoie des CV dans un Basic Fit à Bordeaux parce que je voulais revenir à Bordeaux.
Ouais, OK.
Et là, il y a un head trainer qui m'appelle parce qu'il me connaissait. Et il me dit, non, mais Max, tu ne vas pas être hôte d'accueil à Basic Fit. Moi, je peux te proposer une opportunité de coach sportif. On facture à 40 euros de l'heure et tout. Je me dis, non, mais attends, mais qui facture 40 euros de l'heure? Qui est prêt à payer 40 euros pour une séance de sport? Donc, je suis curieux, j'y vais. Okay. On fait un entretien. Et je me dis, vas-y, why not?
À ce moment-là, tu n'as pas d'amis qui sont dans le personal training, dans le coaching, qui gagnent leur vie ou des choses? Ouais, OK.
Non, okay. Et puis en plus, je suis en relation avec les personnes de ma formation du BPJEPS. Et en fait, je vois que la moitié ont arrêté.
L'autre partie galère.
Ouais, voilà. La plupart galèrent, la plupart n'en vivent pas. Il y en a qui ont carrément arrêté. Okay. Et il y en a un ou deux, je pense, qui arrivent à en vivre confortablement, mais en étant salariés. Donc, ouais. Je ne connais pas de personal trainer qui gagne 5000 euros par mois, quoi, tu vois.
Ouais, OK. Ouais, tu n'as pas d'élément de comparaison, du coup.
C'est ça, ouais.
OK. Donc, direction Bordeaux. OK. Le head trainer à Bordeaux, c'est qui?
C'est Thomas Guy.
OK, d'accord. Ça marche. Et du coup, alors, tu es séduit par son discours?
Bah ouais, complet. Genre, mais au début, j'ai du mal à le croire. Je me dis 40 euros de l'heure, est-ce qu'on peut vraiment signer des clients à 40 euros de l'heure? Je me rappelle que je lui ai même fait patienter une semaine avant de lui donner ma réponse. Tu vois, c'est un peu lui qui m'a relancé et j'étais vraiment dans le doute, que je me disais, mais ça ne va pas marcher. En plus, à l'époque, bah, tu sais, les loyers basic fit, donc même si c'est quand même, ils font en sorte que ce soit confortable, ouais. Au bout de 3, 4, 5 mois, tu te retrouves à payer 600 et quelques euros, voire 700 euros de loyer. Ouais. Mais moi, au début, je ne vois pas, vu que je n'y crois pas, je me dis, putain, ça va être compliqué, je vais me mettre dans la merde. En plus, il y a 6 mois de préavis. Donc, tu vois, genre, je commence à hésiter. C'était que des croyances limitantes. Hein. Et je me dis, vas-y, go, j'y vais, je me lance. De toute façon, j'avais quand même envie de réussir. Donc, je savais que si je me lançais, j'allais le faire à fond, tu vois.
Ouais.
Et donc, du coup, je me suis lancé. Et puis, août,
et là tu reprends quoi? Tu reprends le succès de ce que tu avais pu faire sur Toulouse, le fait d'aller discuter. Comment tu envisages cette nouvelle carrière?
Ouais, ben là, je me dis, c'était au mois d'août, je continue à me former. Donc, Thomas, il va me former sur comment obtenir des clients, signer des contrats, etc. Donc, il va me former là-dessus. Et en fait, dans ma tête, je me dis, allez, je profite la fin du mois d'août et je me dis, septembre, je fais la rentrée et là, je me dévoue à ça. Donc, même stratégie, ça veut dire, bah, du coup, je faisais du 8h-22h. Donc, j'arrivais à 8h à la salle, je partais à 22h. J'allais parler aux personnes, j'essayais de connecter, on faisait remplir des bilans en forme. J'ai mis un peu de temps à vraiment bien en vivre, mais au bout de 6 mois, ça commençait à bien marcher, tu vois. Donc, j'avais vraiment cette stratégie de être présent, me former et voilà, faire tout ce qui est en possible pour réussir, quoi.
Donc, connexion, des bilans, essayer justement de ce type de bilan, c'est des évaluations, vous regardez un petit peu la condition physique, à partir de là, vous faites une prescription, je suppose, ouais, ok.
Ouais, c'est exactement ça.
Et est-ce que tu as des moments de doute, du coup, par rapport à ces 6 premiers mois?
Ouais, complet, ouais, à fond. Je me rappelle, je pense que Amandine nous écoutera le podcast, donc dédicace à Didine qui va nous écouter, parce que c'était avec elle que j'ai commencé, en fait. Et elle a commencé en même temps que moi, et les 4 premiers mois, clairement, nos discussions de tous les jours, c'était « Didine, ça va marcher ou pas notre truc, là ?» Elle me disait « Maxime, je crois qu'on est dans la merde, ça va pas marcher et tout », parce que le premier mois, je crois que j'avais généré quoi, 500-600 euros. Le deuxième mois, je me faisais 800 euros. Enfin, j'ai mis du temps avant de me faire mon premier 2000 euros qui était en janvier, je crois. Ouais. Ça a mis 4-5 mois. Donc, ouais, énormément de doutes. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on n'a pas fait le mauvais choix? Donc, oui, genre pendant les 4 premiers mois, énormément de doutes. Et puis, vu que je sortais d'une période aussi où je n'avais pas confiance en moi et tout, il y a cette petite voix qui revient. Ouais, il y a cette petite voix qui revient. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que c'est fait pour toi, etc. Tu vois?
Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux coachs qui ont souvent la même trajectoire? Et c'est normal, hein, quand on monte un business, ouais. On ne peut pas passer de 0 à 10K en un claquement de doigts. Moi, je vois beaucoup, je pense, c'est un petit peu comme la photo qu'on voit souvent. Tu sais, c'est un mec qui est en train de piocher, tu sais, puis il a un coup de pelle de trouver tout un geyser de diamants. Et je pense que les coachs arrêtent trop rapidement ou ils se disent « Ouais, ben, en fait, ce club-là, c'est pas le bon ou cet environnement-là, c'est pas le bon. » Et puis, hop, ils vont voir ailleurs, il faut tout reconstruire et tout. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à l'expérience que tu as pu vivre, toi?
Ouais, bah déjà, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. On arrête beaucoup trop vite, mais c'est en tant qu'être humain, je pense qu'on est conditionné à comme ça aussi, tu vois. Il y a plusieurs choses que j'aimerais dire, c'est que la croissance, elle est exponentielle. Ça veut dire que tu peux galérer pendant, comme tu dis, avec ton coup de pioche. Tu sais, tu as un coup de pioche de trouver le trésor. Mais des fois, c'est ça parce que pour mon exemple, j'ai mis 5-6 mois à faire mes 2000 premiers euros. 6000 mois après, je faisais mon mois à 11 000. 6 mois après, je faisais mon premier mois à 11 000. Donc, c'est exponentiel. Donc, je dirais… Le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc, tu es à un coup de pioche, dis-toi, tu es à un coup de pioche, continue tes efforts, ça va marcher. Et ensuite, ben, fais un petit bilan sur quelles sont mes incompétences qui fait que peut-être ça ne marche pas ou quelles sont les compétences que je peux développer qui vont faire que ça va mieux marcher. Par exemple, m'améliorer en vente ou comment je peux me faire un peu plus connaître, comment je peux… commencer peut-être à manipuler le marketing digital, créer un petit peu de pub pour me ramener des personnes, enfin, développer des compétences. Donc, je dirais première étape, mindset, genre mindset, crois en toi, tu vas y arriver, c'est juste une question de temps. Et ensuite, bah, développe les compétences dont tu as besoin pour aller peut-être plus vite, quoi. C'est ce que je dirais.
Mmh. Et ça, c'est le plus difficile, c'est de, ouais, d'investir en soi, ouais. En sachant que souvent, on se dit, ouais, bon, j'ai déjà investi pour mon BPJEPS, ou et en plus de ça, j'ai fait des formations complémentaires pour m'améliorer, je ne sais pas, pour faire en entraînement fonctionnel ou pour au mental, etc. Donc, j'ai investi beaucoup d'argent. Et souvent, ouais. Les coachs me disent, ouais, j'ai investi beaucoup d'argent et tout, je suis compétent et tout. Et je leur dis, mais oui, mais je pense que c'est bien ce que tu as construit au niveau… technicité au niveau de ton métier de coach, mais as-tu pensé justement à te développer en tant que indépendant, en tant qu'entrepreneur? Et c'est là où souvent il y a une case qui nous manque, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, nos diplômes respectifs ne nous expliquent pas, et c'est pas l'objectif du diplôme en soi, c'est déjà d'être un bon coach. Et donc c'est ça aussi qui est souvent un petit peu complexe. Qu'est-ce que toi tu as appris? Comment expliques-tu que tu as des difficultés, tu arrives à 2000 euros et après tu passes les 10K. Est-ce que c'est le fait que forcément, enfin moi c'est un peu le concept du l'effet resto, hein, c'est plus tu as de monde, plus les gens te voient coacher, bah, entre guillemets, plus ils ont envie d'être coachés par toi. Comment tu expliques tout ça, ce côté exponentiel dans le business?
Moi ensuite j'ai eu la rencontre avec Alex Kiefer.
Ouais.
Et en fait moi c'était simple. Je me suis dit, en tant que personal trainer, je m'étais dit, tant que je ne gagne pas 6 000 euros par mois, tout ce que je gagne, ce n'est pas à moi, ce sera pour ma formation.
Okay.
Donc, j'étais en mode, moi, tu sais, genre, j'avais juste mon loyer, ma bouffe à payer, puis j'étais tout le temps à la salle. Donc, je n'avais pas de lifestyle, tu sais, où je dépensais beaucoup d'argent. Je ne partais pas en week-end ou alors très peu. Donc, moi, tous les sous que je gagnais, dès que je gagnais des 2 000, 3 000 euros par mois et tout, je renvoyais tout dans de la formation. Donc, j'allais me former, etc. Et je pense que c'est ce qui a fait que ben, je suis monté vite en compétences. Et ensuite, il y a eu l'effet cumulé, forcément, parce que j'ai appris aussi à coacher. Donc, ben, j'ai commencé à renouveler des clients qui avaient pris que 3 mois ou 6 mois, plus les nouveaux. Puis, ça a fait effet boule de neige parce que j'étais tout le temps à la salle. Donc, du coup, ben, au fur et à mesure, avec de la persévérance, tout s'est accumulé. Ce qui a fait que ben, j'ai fait mon premier mois à 11 000. C'était au mois de juin, je crois. J'avais fait 11 000. Mais parce que voilà, ça s'était accumulé. J'ai brûlé les bateaux. J'étais vraiment déterminé. Et surtout, j'ai dépensé énormément d'argent dans ma formation parce que j'étais conscient que j'étais incompétent pour voilà, être un vrai entrepreneur. Donc, je m'étais rendu compte que j'étais un coach sportif, mais je n'étais pas un entrepreneur. Et que pour vraiment réussir, il fallait que je devienne aussi un entrepreneur. Donc, du coup, ben, c'est là où j'ai commencé à me former.
Ouais. Il y a une chose qui transparaît chez toi, et tu en as parlé assez rapidement aussi dans ton parcours, c'est le développement aussi personnel qui t'a permis, je pense, tu vois, d'avoir une vue à 360 et de comprendre certaines choses. Pas tout comprendre, parce que c'est vrai que c'est, enfin, tu vois, à titre personnel, c'est difficile de tout comprendre au niveau de l'être humain et de toutes les connexions, mais le fait de s'ouvrir à tout ça, je pense que déjà, tu avais une ouverture d'esprit. Au niveau de ton parcours Basic Fit, comment ça s'est arrêté? Quand est-ce que tu t'es dit que voilà, il fallait que tu passes à autre chose, ou tu avais toujours ce développement personnel? Est-ce que déjà tu l'avais mis en place à la fin à Basic Fit, ou comment ça s'est passé tout ça?
Non, je t'avoue, je l'avais perdu un petit peu de vue. Alors, ça, c'était en arrière-plan, mais là, j'étais vraiment consacré à… Ben, j'ai commencé à goûter au fait de gagner de l'argent, tu vois. Donc, je me suis dit, putain, mais en fait, il y a une vraie opportunité. Du coup, je me suis vraiment développé. Et effectivement, à un moment donné, j'ai commencé à être en perte de sens parce que, ben, tu sais, quand tu fais 10, 11 coachings par jour, ça te fatigue. Tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as pas de temps. Tu n'as plus d'énergie. Et du coup, j'ai commencé à entendre parler du business en ligne, qu'il y avait des coachs qui gagnaient 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois en travaillant moins, tu vois. Donc ben là, ça a fait un petit peu disruption. Je me suis dit, OK, je vais m'y intéresser, tu vois. Donc, c'est un mélange de perte de sens parce que du coup, il n'y avait pas ce développement personnel dans l'accompagnement de mes coachés, tu vois. Et aussi ce truc-là de… j'avais plus de temps, quoi. J'avais plus de temps pour moi. Du coup, tous mes autres domaines de vie étaient un peu négligés. Ouais, tu vois, parce que j'étais tout le temps à la salle. Et donc, du coup, ben, j'ai commencé à m'intéresser, du coup, au coaching en ligne. Je me suis intéressé au coaching en ligne et ensuite, je me suis lancé dedans à fond, quoi.
Ouais. Ça, c'est ce qui arrive, et moi je le vois pour accompagner des coachs, c'est ce qui arrive un petit peu, et c'est un peu le problème, et c'est à la limite, je pense, du business model du coach en one-to-one, c'est que comme on vend du temps contre de l'argent, irrémédiablement, ouais. À la fin, forcément, oui, on gagne de l'argent, mais on n'a pas de vie. Donc, à un moment donné, ça ne peut pas durer, même si tu adores ton job, et c'est même un coup à te dégoûter pour en avoir discuté avec certains. Donc, comment tu fais cette transition? Est-ce que tu t'es dit, OK, je suis prêt à redescendre en termes de salaire ou en termes de lifestyle pour construire quelque chose de plus pérenne dans le temps? C'était quoi ta vision des choses? Est-ce que c'est arrivé aussi pendant la période Covid où tu n'as pas eu le choix de changer? Comment ça s'est fait, cette transition-là?
Ouais, alors ça s'est fait avant un peu avant le Covid. Tu vois, okay. C'est fait avant le Covid parce que moi, je me suis lancé sur Internet en 2019, mais donc septembre 2019, je me fais accompagner pour monter mon activité de coaching en ligne. Par ouais. contre, je ne lâche pas mon boulot à Basic Fit.
Oui, OK.
Donc, c'est exactement ça.
C'est un premier conseil intéressant, c'est voilà, tu capitalises sur ce que tu as déjà et en parallèle, tu montes quelque chose. Et du coup, comment tu fais, étant donné que tu m'as dit que tu étais full, est-ce que tu prends justement moins de coaching volontairement, mais tu gardes un certain niveau de salaire et puis pour justement progressivement faire la bascule?
Ouais, c'est exactement ça. Et surtout, comme je t'ai dit, j'avais beau faire des mois à 11 000, 10 000, 9 000, vu que je réinvestissais tout, j'avais pas forcément de trésor. Donc, parce que là, pareil, l'accompagnement que j'avais pris, il était à 10 000 euros pour un accompagnement de 3 mois seulement, tu vois, pour monter son activité en ligne. Okay. Donc, du coup, je commence à prendre moins de coaching. Je me dis, allez, je vais prendre moins de coaching et je vais réserver mes après-midi, certaines matinées à développer mon coaching en ligne. Tu vois, ouais. Donc je vais avancer très doucement, forcément, parce que je suis quand même en train de coacher à la salle. Hein. J'ai quand même beaucoup de coaching à la salle. Petit à petit, ça va diminuer. Ça va diminuer petit à petit. Et je crois que c'est en décembre, donc décembre 2019. Ouais, décembre 2019, on fait un séminaire avec le fameux formateur à Malte. Et là, il nous fait vraiment un gros discours inspirationnel, tu vois, motivation, qu'il faut savoir brûler les bateaux. Donc, brûler les bateaux, ça veut dire en gros ne pas se laisser le choix de réussir, tu vois, genre, il n'y a pas de demi-tour possible, quoi. On ne rentre pas à la maison, on y va, quoi. Et du coup, là, il me chauffe. Du coup, j'écris ma lettre de préavis à Malte que j'envoie.
OK, OK.
Tu vois, vraiment en mode motivation, allez, tu sais qu'il faut le faire, tu sais que c'est inconfortable, mais voilà, tu sais qu'il faut le faire, donc fais-le. J'envoie ma lettre de préavis, donc j'ai 6 mois de préavis. Donc là, je me dis, j'ai plus le choix, j'ai 6 mois pour générer un revenu voilà, de au moins 3 000, 4 000 euros par mois avec mon coaching en ligne. Sinon, après, je suis à poil. Donc ça, ça a été très dur. C'est surtout dans la tête, hein. J'imagine s'il y a des coachs qui en sont peut-être à cette étape-là. C'est très dur. Mentalement d'arriver à se dire je vais laisser un emploi qui me rapporte potentiellement à peu près 9-10 000 euros par mois, en fait, tu vois.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui fais du coup du développement personnel, où moi j'ai eu les deux types de situations où il y a des gens, tu leur dis ça, en fait ils sont, voilà, ça te fait toujours peur, mais ils sont OK parce qu'ils vont être focus, et il y en a d'autres, tu leur dis ça, ils font ça, et en fait il y a la peur qui s'installe, et en fait ils sont paralysés, ils n'y arrivent pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire un petit peu par rapport à ça.
Totalement. Ouais.
C'est ça qui est difficile dans le choix, du coup, parce que je conçois que quand je n'ai pas d'autre choix, entre guillemets, tu vas tout faire. Mais il y a des gens, entre guillemets, ils veulent le faire, mais ils sont, tu vois, paralysés, tétanisés. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces personnes-là?
Ouais. Moi, en fait, je pense que c'est important de savoir où tu vas et c'est quoi ta vision à 5 ans, en fait, tu vois. Moi, je sais que ma vision à 5 ans, c'était, oui, aider des gens, donc développement personnel, mais c'est surtout, je voulais aussi être libre, aussi bien financièrement que géographiquement et temporellement. Donc là, j'étais dans le dilemme de, OK, je vais lâcher un emploi qui me rapporte à peu près 10 000 euros par mois. Pour autant, je n'ai pas de temps et le coaching en ligne, c'est ce qui va pouvoir me permettre de gagner autant, voire plus, en ayant beaucoup plus de temps. Donc, j'avais conscience que oui, il y a 6 mois, 1 an, peut-être 1 an et demi de sacrifice, mais qui allait me rapprocher de ma vision parce que on en revient à ça, je croyais suffisamment en moi pour me dire tu vas y arriver. Donc, okay. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de confiance en soi et est-ce que la personne, elle croit en soi? C'est de se dire, bah, si au fond, elle croit qu'elle ne va pas y arriver, bah, c'est compliqué, c'est normal qu'elle soit tétanisée par la peur. La personne qui croit en elle, elle a exactement la même peur qui est en elle, c'est juste qu'elle va l'interpréter différemment en disant, c'est OK d'avoir peur, tu lâches un emploi qui te ramène énormément d'argent, pour autant, tu sais où tu vas. Tu te sens suffisamment compétent d'y aller, tu crois en toi, allez go, on se tient par la main et on y va. Tu vois, je pense que c'est plus ce truc de croire en soi et d'arriver à prendre des risques si là où tu veux aller, c'est suffisamment sexy et attirant pour toi, en fait. Tu vois?
Mais ce qui est vachement inspirant, c'est qu'au début de l'interview, tu nous disais que bah, du coup, tu avais perdu ces repères, ce manque de confiance en soi et que quelques années plus tard, tu arrives à faire des choses comme ça qui… tu dis ça à une personne dans la rue, tu gagnes 10 000 euros par mois et puis… 6 mois, en fait, volontairement, tu crames ce business pour peut-être avoir une vie meilleure. C'est plutôt cool et vachement inspirant. Et quelles sont les étapes justement sur ces 6 premiers mois? Comment tu fais pour justement basculer sur un business online? Si voilà, si je devais redémarrer de zéro ou si je devais me lancer moi dans le qu'est-ce que je devrais faire? Quels sont les conseils que tu pourrais me donner?
Moi, le conseil que je donnerais pour celui qui veut se lancer en ligne, c'est de pas faire le chemin à l'envers. Ça veut dire, les coachs qui se lancent en ligne, ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, c'est qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois communiquer sur Facebook? Est-ce que je dois faire un groupe Facebook, un tunnel de vente, etc.? Donc, ils vont directement demander les outils sans savoir déjà le savoir-faire. Tu vois, comment communiquer, comment se faire connaître, comment connecter à un être humain, comment vendre un service. Donc, du coup, je dirais de travailler avec quelqu'un déjà d'une, de se former. Parce que moi, si je ne me serais pas formé, je ne pourrais pas en être là aujourd'hui, tu vois. Donc, parce que je ne savais pas toutes les compétences marketing, vente, je ne les connaissais pas. Donc, il a fallu que je me forme pour ça. Donc, ce que je conseillerais, c'est de définir déjà qui tu veux aider précisément, tu vois. De pas avoir peur de se spécialiser, parce que quand tu es le coach de tout le monde, tu es le coach de personne, tu vois. Donc, de pas hésiter à spécialiser dans ta spécialité de ce qui t'anime à toi. Est-ce que toi, ce qui t'anime, c'est préparer des athlètes? Est-ce que ce qui t'anime, c'est de développer la confiance en soi chez les femmes qui se sentent grosses et nulles et moches? Est-ce que c'est d'arriver à faire perdre du poids? Tu es spécialiste dans la perte de poids, plus dans la prise de masse. Bref, d'arriver à se spécifier sur un avatar, un client idéal, et ensuite d'apprendre à communiquer avec ce client idéal, avec cet avatar, tu vois. Parce que la problématique de Joséphine qui veut perdre du poids n'est pas la problématique de Pierre qui veut prendre du poids, tu vois. Donc, si tu fais une communication pour tout le monde, ça parle à personne. Maintenant, si tu as une communication avec Joséphine qui veut perdre du poids et que tu arrives à comprendre ce qu'elle vit émotionnellement, en quoi ça la pénalise, son surpoids, en quoi ça la rend peut-être malheureuse, en quoi ça la bloque dans ses relations, que tu arrives vraiment à communiquer avec elle et avoir un marketing autour de ça, tu vas être clivant, tu vas connecter avec cette personne-là et elle va automatiquement te faire confiance et en tout cas, elle va être intéressée par ton service. Tu vois? Donc, je dirais de vraiment faire un travail en amont sur qui tu veux aider, comment tu vas communiquer avec cette personne, est-ce que tu connais vraiment bien cette personne pour pouvoir l'aider, et ensuite, ta méthode. Et toi, ton histoire doit répondre à cette personne que tu aides. Ça veut dire comment par ton histoire, ton vécu, tes compétences, ta formation, tu es la bonne personne pour pouvoir l'aider et comment tu peux lui faire percevoir dans ton marketing.
Excuse-moi. Et c'est là où toi, tu changes d'avatar du coup par rapport à ce que tu pouvais proposer en club Basic Feed. C'est là où tu définis un peu plus précisément du coup ce positionnement.
Ouais. Okay. Et c'est exactement ça, parce qu'en fait, si tu veux, quand je me lance dans la formation, je parle à tout le monde. Je dis, je suis coach en perte de poids, transformation physique et tout, et ça marche pas. Vraiment, tu vois, ça marche pas. Et c'est quand j'ai osé, parce que c'était une peur de me nicher, c'est ce qu'on appelle se nicher. Je me suis niché chez les femmes qui voulaient perdre du poids, mais qui mangeaient par compulsion, tu vois.
Ouais.
C'était ultra niché. Donc, il y avait la croyance limitante de « Ouais, mais du coup, tu vas perdre énormément de monde et du coup, ça ne va pas marcher. » Et non, au contraire. C'est-à-dire que là, vu que j'avais un message spécifique, les gens se reconnaissaient. Et derrière, c'est elle qui demandait d'avoir un appel avec nous pour rejoindre le programme. tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est parce que là, j'ai osé me nicher, être spécifique sur un client idéal, sur un avatar avec une problématique précise. Et c'est à ce moment-là où ça a commencé à prendre parce que du coup, c'était vraiment, c'était précis, ça parlait à une personne et pas à tout le monde, en fait, tu vois.
Ok. Donc, se nicher et créer justement une offre qui correspond parfaitement à cette niche-là, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Oui.
Exactement.
Et comment faire pour aujourd'hui se différencier de tout ce qu'il y a sur le marché ? Comment tu as fait, toi, pour construire cette offre idéale ?
Ouais. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que maintenant, quand j'accompagne les coachs, on fait ensemble. Et c'est ce qui marche. C'est comment tu peux te servir de ton histoire, de ton vécu pour aider cette personne et construire une offre autour de ça. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir vécu le problème que tu vas résoudre chez ton prospect ou chez ton client, tu vois. Pour autant, il faut que tu le connaisses par cœur quand même, tu vois. Enfin, ouais. Moi, c'est ce que je crois. Donc, du coup, l'offre, ça va être de la créer sur… l'offre, elle doit répondre à… exactement la problématique qu'elle a, et l'offre, elle doit être le chemin le plus court et le plus rapide pour résoudre son problème. Donc, par exemple, si son problème, c'est nous, en l'occurrence, elle mange compulsivement, donc du coup, c'est ce qui l'empêche de perdre du poids parce qu'à chaque fois, elle va saboter tout le travail qu'elle fait. Nous, la promesse, ça va être résous tes émotions, entre guillemets, libère-toi de tes émotions pour ne plus avoir de craquage alimentaire et perdre du poids définitivement. Okay. Ça, c'est la promesse de transformation qui va constituer l'offre. Et si ton offre, tu arrives à faire percevoir que ton offre, c'est le seul et unique moyen, et tu l'expliques pourquoi, il faut vraiment l'expliquer pourquoi, c'est le seul et unique moyen d'atteindre cet objectif-là, cet objectif est ultra sexy pour elle, ton offre, elle devient irrésistible à ses yeux, en fait. Mm-hmm. Tu vois ? Et pour vraiment définir ce qui constitue une belle offre aussi, c'est d'arriver à faire comprendre à ton prospect que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant était voué à l'échec parce que il manquait ça. Et le ça, c'est toi qui es le spécialiste de ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
Mmh. Voilà. Et donc, du coup, ça justifie un petit peu tous ces échecs. Elle se dit, ah, mais oui, c'est normal, c'est parce qu'il manquait, par exemple, la partie émotionnelle. Dans tout ce que j'ai fait, il manquait cette partie émotionnelle. Et lui, c'est le spécialiste et il a une offre d'accompagnement sur cette partie émotionnelle spécifiquement. Donc, du coup, ça y est, il y a quelque chose qui va enfin marcher pour moi. Tu vois, ça leur redonne de l'espoir. Et derrière, elles ont plus confiance en toi. Et c'est ce qui va faire que l'offre est irrésistible. En tout cas, ils vont être très intéressés par ce que tu fais.
OK. Donc, aujourd'hui, au niveau de ton offre, du coup, la partie sportive, elle est, elle est plus ou moins anecdotique, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. En fait, si tu veux, moi, sur ma plateforme, j'ai des entraînements très courts de 15 minutes qui sont tournés en automatique par moi-même, tu vois.
Ouais. Okay.
On a une partie alimentaire où on les aide sur l'alimentation, mais 99% du programme, c'est la gestion des émotions, développement personnel, quoi.
OK. Et du coup, tu l'as dit tout à l'heure, c'est comment on fait sur un business de coaching online pour se dégager du temps et pas avoir le même business model qu'un ouais. coach qui vend ses séances, par exemple.
Ouais, en fait, ça, c'est marrant que tu dises ça parce que moi, j'avais ce fantasme-là que ça y est, j'avais à avoir du temps avec le coaching en ligne. Sauf que ma première année, je me suis retrouvé à bosser autant que quand j'étais à Basic Fit parce que il faut faire le marketing, il faut prendre les appels de vente, il faut coacher. Au début, je faisais du coaching one-to-one aussi en ligne parce que c'était des offres premium, tu vois. Okay. Et au fur et à mesure, du coup, ça a été de, pareil, encore une fois, continuer à me former. Donc, j'ai repris un programme à 30 000 euros pour monter mon entreprise et commencer à recruter, à déléguer, à manager les équipes. Et donc, ouais. Du coup, petit à petit, j'ai recruté des commerciaux. Donc, déjà, ils m'ont retiré la charge de travail sur les appels de vente, même si c'est un travail au quotidien de coacher et manager des commerciaux. Ensuite, j'ai recruté des coachs qui allaient pouvoir aussi, je les ai formés pour coacher les personnes. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle créer une offre scalable. Ça veut dire que avoir 10, 100 ou 200 clients ne te demande pas plus d'énergie à toi en tant que CIO. en tant que, que patron, entre guillemets, mais que tu as créé des systèmes qui font que c'est des coachs qui vont les coacher, des systèmes de coaching de groupe où là, tu peux faire des grandes salles et ensuite le coaching individuel par des coachs que toi, tu as toi-même formés. Okay. Donc, en gros, c'est recruter, déléguer et pour arriver à se dégager du temps comme aujourd'hui, mais prendre conscience que les 6 premiers mois, ben, tu vas bosser fort. Ça, c'est normal. Tu vois?
Ok. Et à quel moment il faudrait, pour ceux qui nous écoutent, quand on est seul, à commencer à développer, enfin, en tout cas, à déléguer la partie sales, à commencer à déléguer une partie du produit? Comment tu t'y es pris? Tu avais des paliers en termes de chiffre d'affaires? Quelle est ta réflexion par rapport à ça?
En fait, je dirais, avant de déléguer la partie sales, il faut t'assurer que ton marketing, il est vraiment très bon. Pourquoi ? Parce que dis-toi que quand tu recruteras des commerciaux, ils closeront toujours pratiquement 2 fois moins que toi. Parce que toi, tu es le produit, tu vois. Donc, ce sera plus facile pour toi. Donc, déjà, si tu as du mal à être rentable quand c'est toi qui fais tes ventes, tu ne peux pas déléguer pour l'instant.
Ouais,
il faut que tu sois suffisamment rentable pour te dire, est-ce que si je vends 2 fois moins, je suis encore rentable ? Oui. Ok, tu peux recruter des commerciaux. Si tu te dis, en closant, donc en vendant 2 fois moins au téléphone, par exemple, je ne suis plus rentable, ben, tu ne peux pas encore recruter des commerciaux. C'est-à-dire que ton marketing n'est pas encore assez bon et tes appels te coûtent trop cher, entre guillemets. Ça, je te parle pour ceux qui ont le modèle publicité, comme moi.
Tu fais peut-être de l'organique, mais c'est plus publicité, Facebook, Instagram, chose comme ça.
Ouais, c'est ça, exactement. Publicité à fond.
D'accord.
Donc, voilà. Ensuite, effectivement, ceux qui ont une grosse communauté, ils peuvent se permettre de louper des ventes parce qu'ils n'ont pas de coût d'acquisition, tu vois. En fait, ça dépend. Donc, c'est déjà de faire un bilan sur tes coûts d'acquisition, tes charges, tes ventes et d'arriver à définir quelle est la priorité pour toi de déléguer. En général, la première chose à déléguer, ça va être la livraison parce que c'est ce qui nous prend le plus de temps, tu sais, de coacher. Donc, première étape, ça va être de déléguer la livraison. Comment je peux recruter soit des anciennes clientes qui ont eu des résultats, soit des coachs qui sont suffisamment compétents pour coacher mes clients, qui fait que c'est le système où tu délègues que, par exemple, coacher une personne te rapporte 200 euros, tu vas donner 50 euros de ces 200 euros à un coach pour qu'il le fasse. Tu vois ?
Okay.
Donc, commencer à déléguer la partie coaching et ensuite, plus la partie sales, vente, parce que du coup, tu vas gagner du temps et dans ce temps-là, tu peux faire des webinaires, continuer à créer du contenu, faire en sorte d'avoir de plus en plus d'appels de vente pour ensuite faire les ventes. Et la meilleure étape, c'est recruter un commercial, mais de closer avec lui, de continuer avec lui. Ça veut dire de faire les appels avec lui, de le faire monter en compétence jusqu'à ce qu'il soit autonome, quoi.
OK. Pour ceux qui connaissent pas un petit peu tout cet univers-là. Est-ce que tu peux nous expliquer au niveau closing, c'est un pourcentage que tu donnes par rapport aux ventes qu'il fait ?
C'est ça, ouais, exactement. Ouais.
Et sur la partie délégation, sur la partie produit avec les coachs, c'est quoi ? C'est des coachs indépendants et ils facturent en fonction du temps.
C'est ça.
Ouais, c'est ça aussi. Ok.
C'est exactement ça. Ouais.
Est-ce que tu peux nous donner, je sais pas si c'est confidentiel ou autre. Hein, combien tu mets environ ou de temps en temps en publicité, parce que souvent les coachs me disent ouais bah moi je suis frileux à mettre 5 euros par jour. Je te demande pas de mettre 1000 euros par jour, mais il y a quand même il y a souvent encore beaucoup de freins par rapport à ça, et j'aime bien quand d'autres coachs se disent ah bah non mais moi je mets tant, et tu vois ça permet aussi de casser certains blocages. Comment je suppose que toi aussi, même si tu avais du succès dans ton entreprise, mettre de l'argent, même si tu sais que c'est bien la publicité Facebook et Facebook est là pour aider les entreprises, tu vois, c'est toujours se dire « Oh punaise, je mets autant, est-ce que je vais avoir un retour sur investissement ?»
Ouais, ouais. Non, mais c'est dur. Hein. J'avoue, moi aussi, au début, je mettais, parce qu'ils nous avaient conseillé de ne pas mettre moins de 20 euros par jour, donc je mettais 20 euros par jour et j'étais constamment en train de regarder mon compte se faire débiter de 20 euros tous les jours et j'étais en mode « Putain, tu vois, ça me coûte de l'argent. »
Ça, c'est la pire des choses à faire. Enfin, aussi, les mentors qui m'accompagne, il faut surtout pas en fait regarder parce que l'être humain a toujours peur de à la perte. Tu vois, on regarde simplement ce que l'on perd, mais on regarde pas le... Donc, il faut que ce soit une personne où regardez le moins possible ces chiffres-là, parce que voilà, si tu regardes tous les jours que tu as été débité de 20 euros et tout, ça te fait peur, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est tu alloues un budget. Donc, par exemple, moi, là, c'était 200 euros. Donc, je m'étais dit, ben, je mets 20 euros par jour pendant 10 jours, je regarde pas. Tu vois.
Ouais, ok.
Je regarde pas, on ira voir les chiffres après, on ira voir les chiffres plus tard. Et en fonction, bah, si j'ai fait une vente, bah, ça veut dire que c'est rentable. Si j'ai pas fait de vente, non, on modifiera. Mais de laisser du temps et d'être prêt à perdre un peu d'argent, c'est normal, ça fait partie du jeu, tu vois. Okay. C'est Alex qui dit beaucoup ça et moi, c'est quelque chose, c'est tout le monde est prêt à gagner beaucoup d'argent, personne n'est prêt à en dépenser, tu vois. Et tu donnes, enfin, tu reçois à hauteur où tu donnes. Donc, à un moment donné, il faut comprendre cette logique. Et donc, du coup, pour dire oui, moi aussi, j'ai eu cette peur-là. Aujourd'hui, on dépense, ça va dépendre entre 220 et 250 euros par jour. Donc, okay. Donc entre 6 et 7 000 euros par mois de pub. Parce que je sais que mon tunnel, il a été travaillé, il a été refait. Ça parle à. Le concept est bon. Le concept a été vérifié. Le marché, il y a de la demande. Je veux dire, là, je ne prends plus trop de risques à faire ça. Il ne faut pas le faire dès le début, bien évidemment.
Ouais, bah, oui, oui,
tester. Mais je peux comprendre ce côté-là, parce que j'y suis passé aussi, d'avoir peur d'envoyer 200, 300, 500 euros en l'air comme ça parce que la pub ne marche pas. Ça fait partie du jeu. Et c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, bien comprendre que si le travail il est bien fait en amont, que ton message il est bon, que ta communication elle est bonne et que tu arrives à te différencier par ton positionnement, à ce moment-là, ben, quand tu mettras un euro, ben, il y a beaucoup plus de chances qu'il t'en rende 2, 3, 4 ou 5 que si tu fais juste une publicité en disant « je suis coach en perte de poids » et j'en vois. Je vois des pubs de coach qui sont là. Je suis coach sportif, on va faire un bilan personnalisé, je vais t'aider dans tes trucs. Eh ben, ces personnes-là, je suis sûr qu'elles vont galérer. Et de toute façon, ces pubs-là, je ne les vois jamais perdurer dans le temps. Donc, ils doivent se dire, ils doivent arrêter. Et ensuite, ça fait naître la croyance chez eux que la publicité, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Ben non, ce n'est pas la publicité qui ne fonctionne pas. C'est juste que tu n'as pas fait le bon travail en amont. La publicité, c'est un outil. C'est un outil de diffusion. Si tu diffuses un message moyen, tu vas avoir des résultats moyens. Si tu diffuses un message impactant qui touche les gens et, ou en tout cas qui te fait percevoir comme une autorité sur ce que tu fais, eh ben, tu vas avoir les résultats à hauteur de ton message, en fait. Donc, comprendre ça, bien faire le travail.
Notre ami Marc, monsieur Mark Zuckerberg de Facebook, il a tout intérêt à ce qu'on gagne de l'argent avec les publicités pour continuer, être un bon client de pub Facebook. Donc, forcément… Parce que souvent, on me dit « Ouais, mais non, en fait, il veut me piquer de l'argent. » Bah non, parce que tu vois, si ça ne marche pas pour toi, bah, tu vas arrêter, donc tu ne seras plus client et ce n'est pas, c'est pas le processus. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ouais. Et il faut comprendre aussi que la publicité, Facebook, comme la publicité AdWords ou n'importe quel type de pub, c'est un véritable métier, quoi. Il y en a qui font ça à longueur de journée. Donc, voilà, ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas non plus.
Ouais, je suis d'accord, mais juste… Juste si je peux rajouter ce que tu dis là en 10, c'est vachement intéressant. Ça va définir aussi pas mal de choses dans la réussite d'un coach. C'est la qualité des réponses qu'on obtient dépend de la qualité des questions que l'on se pose. Et c'est vrai que si les coachs se disent « Ah ouais, mais est-ce que Facebook, ils sont pas là pour prendre mon argent ?» Ben, tu auras les réponses en adéquation avec ça. Mais moi, je vois plus le truc comme tout mon business aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai accompagnées, tout ce que j'ai créé, c'est grâce à Facebook, tu vois. Parce que peut-être que j'ai dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la pub Facebook, mais ça m'en a ramené des centaines, tu vois. Voilà, c'est juste pour...
Ah ouais, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous partager un tunnel qui fonctionne bien chez toi? Comment tu fais? C'est quoi? C'est publicité, VSL ou webinaire plus rendez-vous? Comment ça s'organise? Est-ce
que
tu as des choses que tu peux nous partager?
Ouais, moi, j'envoie de la publicité. Donc, publicité, ils cliquent sur la publicité pour s'inscrire à un challenge de 7 jours.
Ouais, OK.
Challenge de 7 jours, à chaque étape du challenge, je vais les inviter à prendre un appel avec nous.
Ouais, OK.
Pour avoir des informations sur le programme. Et en parallèle, j'envoie une séquence mail où je vais les rajouter sur un groupe Facebook.
Ouais, d'accord.
Et dans ce groupe Facebook, c'est ce qu'on appelle le nurturing. Je vais du coup… Alors maintenant, je ne le fais plus parce que tout tourne en automatique, mais pendant un an, je faisais des lives, j'envoie du témoignage. Vraiment, je crée une communauté, tu vois. Donc, okay. Je connecte avec eux, je partage des moments de mon histoire. Enfin, tu vois, tous les hacks marketing aussi. Donc, je partage mon histoire, mon vécu, comment j'ai créé la méthode, que toutes les personnes que j'ai accompagnées. On va créer du coup une communauté sur le groupe Facebook. Et là, les gens vont avoir encore l'opportunité de prendre un appel avec nous. Donc, voilà, publicité, challenge de 7 jours, groupe Facebook, appel et ensuite la vente qui se fait.
Vas-y. Ok, excellent, excellent. Où est-ce que tu veux t'arrêter, toi, Max, dans ton business? Tu veux aller
jusqu'où? En fait, il y a deux visions. Je pense qu'on a tous en nous la partie égoïste et la partie altruiste, tu vois. Donc, quand je pense à moi, je me dis, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que j'ai plus d'argent qu'il m'en faut, entre guillemets, avec ce que je fais là. Pour autant, quand je pense plus à moi, mais par exemple, là, ce week-end, on fait un séminaire. Donc là, je fais un séminaire, on attend plus de 30 personnes. Et quand je connecte à la mission de pourquoi je fais ça, parce que ça me rappelle mon histoire, mon vécu, par quoi je suis passé, et finalement, je suis pas si différent de ces femmes-là qui manquent de confiance en elles, etc. Je suis passé par là. Donc, quand je suis connecté à la mission et à la vision, bah, j'ai envie de faire x10, non pas en chiffres, mais en termes d'impact, tu vois. Aujourd'hui, on accompagne des groupes de 100 femmes tous les 3 mois. J'ai envie d'accompagner des groupes de 200, 300, 400, de faire des séminaires devant 500 personnes, 1000 personnes. J'ai vraiment cette envie d'impacter. Et ça, je pense, cette force, elle vient de mon histoire, de mon vécu. Donc, je pense que dans les prochaines années, oui, je vais continuer à énormément me développer. Plus forcément pour les mêmes raisons qu'avant. Ça veut dire moins motivé par l'argent, mais plus motivé par l'impact et le nombre de vies qu'on peut changer, quoi.
OK. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées tout au long du chemin, même si tu nous as partagé quelques-unes, quels ont été les moments clés pour toi?
Dans le business en ligne, tu parles ou en tout, en général?
En général, oui, en général. Qui t'ont permis justement de rebondir et, ouais. et d'aller plus loin?
Clairement, moi, ma plus grande force peut être ma plus grande faiblesse. Ça veut dire que je peux autant, enfin en tout cas à l'époque, je pouvais autant croire en moi que ne plus croire en moi du tout le lendemain, tu vois. Donc ça pouvait être ma plus grande force, ma plus grande faiblesse. Et donc du coup, je dirais que moi, ce qui a été le plus important, ça a été de me former constamment. Tu vois, de me former constamment, de m'assurer de pas être seul parce que je savais que dans des moments de solitude, je pouvais retourner un peu dans de l'auto-sabotage, mais tu vas pas y arriver. Tu sais, c'est là où tu doutes. Et quand tu rencontres d'autres personnes qui ont réussi, qui ont fait le chemin, qui sont dans le partage, qui ont envie de t'aider, ça donne de l'énergie, ça donne confiance en toi, ça te montre surtout que c'est possible. Et donc, je dirais, moi, me former constamment jusqu'à ce que j'obtiens ce que je veux, quoi. Donc, les différentes étapes, ça a été… À chaque fois, il y a une problématique, tu vois. Par exemple, je veux me développer en ligne, je ne sais pas faire. OK, qui a fait le chemin? Qui l'a déjà fait? Et qui peut m'aider? OK, donc j'ai eu ce formateur, 10 000 euros. OK. Et ensuite, bah pareil, nouvelle problématique, c'est très bien. Je vis de mon coaching en ligne. Maintenant, je suis prisonnier encore de mon temps. Maintenant, je veux recruter, déléguer. OK, donc c'était le même formateur. Il a une formation d'un an, 30 000 euros là-dessus. OK, bah, je les paye, je me forme. Donc, ça a été vraiment à chaque fois de me dire… OK, là, aujourd'hui, c'est ça, cette étape-là, c'est ça le blocage. Comment je fais pour éliminer ce blocage? Ben, je vais chercher une personne qui a déjà passé cette étape et je vais le payer pour qu'il m'apprenne à le faire, tout simplement. Tu vois?
Okay.
Pour moi, ça a été ça, les plus gros trucs, c'est me former constamment à chaque fois qu'il y avait des problèmes. Tu vois.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire au milieu du coaching, parce qu'il y a beaucoup de coachs ou de propriétaires de studios, de box, de clubs. Il faut dire qu'il y a une grande majorité, alors on n'a pas les chiffres, mais je pense que voilà, c'est toujours il y a une grande majorité de personnes qui galèrent ou qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là?
Alors, je ne veux pas faire ces discours motivation, tout ça, tu vois, mais pour moi, réussir son business, c'est… c'est à la même hauteur qu'un enfant quand il commence à vouloir marcher. Ça veut dire que il va se casser la gueule 10 000 fois, mais à aucun moment il va se dire bah là non je vais ramper toute ma vie, j'arrête d'apprendre à marcher. Tu vois, il se pose pas la question de s'il continue ou pas. Il sait qu'il doit marcher, il va y aller. Bah, pour le business, pour moi c'est pareil. C'est d'une, est-ce que ton objectif il est clair et est-ce que tu es prêt à tout, ou en tout cas que tu es prêt à beaucoup de choses pour y aller, en fait. Et la malchance qu'on a par rapport à cet enfant, c'est que nous, on a une voix dans notre tête maintenant qui nous dit « Ah, mais tu vas pas y arriver. Ah, c'est pas ta priorité, etc. » Et c'est ce qui fait qu'on abandonne. Donc, je dirais, est-ce que ton objectif, tu as vraiment envie de l'atteindre? Déjà, est-ce que tu as un objectif qui est clair et précis? Est-ce que tu as vraiment envie de l'atteindre? Et surtout, est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'atteindre? Parce que si tu as les résultats de tout le monde, c'est juste que tu fais comme tout le monde. Tu fais comme tout le monde, tu penses comme tout le monde, tu agis comme tout le monde, donc tu as les résultats comme tout le monde. Mmh. Travaille 2 heures de plus par jour. Ah oui, mais c'est compliqué. Bah alors, tout le monde dit, mais oui, c'est compliqué, donc tout le monde a ses résultats. Si tu veux des résultats différents, bah, fais des choses différemment. Prends, moi dans ma tête, je m'étais dit, il y avait une phrase qui m'avait heurté, qui disait, travaille 5 ans comme un lion et sois libre jusqu'à la fin de tes jours. Mmh. Et c'est exactement ça, c'est que si tu arrives à condenser le temps et à te dire, tu préviens ta femme, tu préviens tes enfants, tu vas t'octroyer du temps avec eux, mais tu vas quand même leur dire, voilà, 10 heures par jour, bon, jusqu'à 20 heures, papa, il n'est pas disponible, il va bosser. Si tu arrives à faire ça pendant 1 an, 18 mois déjà, je te garantis que tu as créé un truc qui va sortir de la norme parce que tu as fait 3-4 ans de travail d'un individu lambda, tu vois. Mmh. Et derrière, ça te permet d'avoir ta liberté financière ou temporelle, géographique, et derrière, de vraiment profiter. Mais voilà, pour tous ceux qui galèrent ou quoi, c'est juste qu'ils arrivent à se remettre en question et qu'ils arrêtent de se dire que c'est le marché qui est compliqué, c'est les gens qui n'ont pas l'argent, c'est la crise, qu'ils arrêtent de justifier leur échec à l'extérieur parce que là, ils sont victimes de ça, ils n'ont aucun pouvoir là-dessus, et de reprendre la responsabilité de « Ok, pourquoi je ne travaille pas plus? Pourquoi ça fait 2 ans que je galère? Pourquoi je suis toujours aussi incompétent qu'il y a 2 ans en vente ou en truc? Pourquoi je n'ai pas dépensé plus de 500 euros ces 2 dernières années sur ma formation ?» Et de vraiment se poser ces questions-là et de reprendre sa responsabilité parce qu'on est totalement responsable de tout ce qu'on crée dans notre vie. Et s'ils en sont là, il y a des raisons plus profondes, et juste qu'ils se fassent confiance et qu'ils travaillent sur eux et qu'ils arrêtent de croire que c'est l'extérieur qui est responsable de leur échec, mais c'est eux. Il n'y a que eux qui peuvent changer ça.
Donc, tu nous dis de travailler, quoi, en clair.
C'est ça.
Ah ouais, mais souvent, on l'oublie, tu vois. C'est un peu, ah ouais, ben non, mais ça va arriver comme ça. Ou j'entends souvent… Ah ouais, je veux développer en parallèle, je veux faire du coaching en ligne et que ce soit tout automatique. Et en fait, alors je leur dis, il y a un truc que tu n'as pas compris, quoi. C'est que le coaching en ligne, c'est pas non plus, tu te mets sur ton canapé et puis les gens qui payent sur Stripe, il y a quand même, voilà, quelques étapes. Il y a, je pense, même si tu as une équipe, tu as des closers, tu as une partie du coup aujourd'hui managériale et tout. Donc voilà, peut-être que tu travailles justement pour te libérer du temps, mais un business 100% automatique, il en existe peut-être, hein, on appelle ça des muses, mais voilà, je pense pas que ce soit le business du commun des mortels, quoi.
Non, oui, et puis celui qui a créé un business en automatique, bah, faut que tu saches que peut-être il en a lancé 6 auparavant qui se sont cassés la gueule, et que pour avant qu'il soit automatique celui-là, il a peut-être travaillé 10 000 ou 20 000 heures dessus. Donc c'est automatique, oui, parce que tu vois la partie de l'iceberg automatique, mais tu ne vois pas en dessous tout le travail qui a été fait. Et oui, si ce podcast peut permettre de tuer le fantasme à tous les coachs qu'on peut créer un coaching en ligne totalement automatique et nous boire des cocktails, bah, c'est faux en fait. C'est faux et ça ne se passera pas.
Bon, en tout cas, merci Max, c'était super inspirant. Est-ce que j'aime bien poser une petite question sur les livres ou des ressources. Est-ce que tu as une ressource, un livre à nous partager qui t'a marqué, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peut-être le développement personnel ou que sais-je?
Yes. Ça va être un peu mélangé business et développement perso. Tony Robbins, ouais. L'éveil de votre puissance intérieure.
Ok.
Celui-là, ou Pouvoir illimité, les deux sont juste incroyables. Bon, c'est des bons petits pavés, mais il y a énormément d'informations là-dessus. Et je pense
j'ai lu Pouvoir illimité, mais je n'ai pas lu l'autre par contre. Donc, je vais le commander.
L'autre est vachement intéressant aussi. Donc voilà, la petite ressource à lire, vraiment, ça peut vraiment faire passer un palier pour ceux qui débutent.
Excellent. Bah, merci en tout cas. Merci d'avoir pris du
merci
temps.
Merci à toi, Andy.
Où est-ce qu'on peut te suivre, du coup?
Maxime Broudiscou sur Instagram, maxime.broudiscou. Okay. Sur Instagram principalement, oui.
Bon, super. On a eu l'occasion, nous, de. Alors, c'est vrai que ça a été très rapide, mais on a fait un séminaire ensemble et tu es intervenu aussi sur un sujet et tout. Donc, j'espère avoir l'occasion de te revoir en tout cas. Et puis, merci à tous. Mettez 5 étoiles à Max, un petit commentaire et au plaisir, en tout cas, Max, de te retrouver.
Super. Je te remercie, Andy.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness, ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.